enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Juste avant, on aime toujours faire une petite déclaration, parce que la Bible nous enseigne que ce qu'on dit avec la bouche, en croyant du cœur, s'accomplit. Est-ce qu'il y a des gens qui croient que c'est la parole de Dieu ici? Donc on va dire ceci, voici ma Bible, c'est la parole inspirée de Dieu. Et je suis tout ce qu'elle dit que je suis. Je possède tout ce qu'elle dit que je possède. Et je peux faire tout ce qu'elle dit que je peux faire. Je vais maintenant recevoir la semence incorruptible de la parole de Dieu. Et je ne serai jamais plus pareil. Mais je serai pour toujours et à jamais transformé de gloire en gloire dans l'image de Jésus. Amen. Alléluia. Donc, pendant des années, c'est vrai, dans le fond, mais pendant des semaines, je commençais à dire, c'est pas si long que ça. C'est peut-être une des séries de messages le plus long que j'ai fait dans l'histoire de l'Église. Je pense une autre fois, j'ai fait une série qui durait 12 semaines. Mais, laisse-moi vous dire une chose. C'est que quand on parle de Dieu, quand on parle de la nature de Dieu, quand on parle de la bonté de Dieu, on pourrait parler pendant des siècles et des siècles et des siècles sans à peine toucher à la surface de tout ce que Dieu est pour nous. Est-ce que vous êtes d'accord? Mais quand même, on a pris déjà, c'est la 11e semaine qu'on parle de cela. Comme je vous ai dit, cette série a été inspirée même. Le titre de cette série a été inspiré. Une soirée, je revenais de l'Ontario, c'était tard, j'étais vers presque minuit, je pense 11h minuit, je traversais la ville de Montréal, j'étais fatigué, donc pour me rester réveillé, j'ai ouvert la radio, j'écoutais les nouvelles, et tout d'un coup j'ai entendu un chant. C'était Boum Desjardins qui chantait, hein? Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent Boum Desjardins? Et qu'est-ce qu'il chantait? C'est « Dieu, où es-tu? Hein? Peux-tu m'écouter un peu? » Et j'ai écouté les paroles de cette chanson et je me suis dit, wow, ça c'est quelque chose, parce que j'étais en train de prier. Je traversais la ville de Montréal, je voyais toutes les lumières dans tous les appartements et je priais pour les âmes qui habitaient dans ces appartements. Je priais pour les personnes qui étaient là. Et en priant pour les gens de cette belle province, de notre belle province, j'ai prié et tout d'un coup j'entends ce chanteur en train de chanter, « Dieu, où es-tu? » Je me suis dit, tu sais quoi? Je suis sûr et certain qu'il y a des multitudes, des milliers, peut-être même des millions de personnes ici au Québec qui posent la même question. Dieu, où es-tu? Nous avons entendu parler de toi depuis des années. Nous avons entendu que tu es bon, mais si tu es bon, pourquoi est-ce qu'il y a tant de misère? Si tu es vraiment là, pourquoi est-ce que tu fais pas quelque chose? Donc, je me suis dit, ça serait tellement important pour nous en tant qu'Église de faire cette série, d'étudier cela et de voir qui est Dieu. Pas juste où es-tu, mais qui es-tu? Donc, on a vu à travers les semaines que Dieu est bon, il est grand, il est le grand je suis. Il n'est pas le grand j'étais, mais il est le grand je suis, n'est-ce pas? Il est l'Éternel qui ne change jamais. Et on a étudié sa nature à plusieurs de ses noms qu'il a donnés. On a vu beaucoup de choses, qu'il est Jéhovah Rapha, je suis l'Éternel qui te guérit, je suis l'Éternel aussi, Jéhovah Jireh, l'Éternel qui voit et qui pourvoit, toutes ces choses. Mais aujourd'hui, nous allons voir un autre aspect vraiment la nature de Dieu. Nous allons parler de comment trouver la paix dans un monde bousculé. Est-ce qu'il y a des gens qui aimeraient avoir la paix? Comment trouver la paix dans un monde bousculé? Vous êtes d'accord que le monde est bousculé, n'est-ce pas? Tout le monde parle de la paix. Tout le monde parle de comment trouver des solutions pour mettre à fin les guerres. Et même juste cette semaine, vous avez vu peut-être à la télévision, on a une image de cela, une manifestation à la ville de Québec contre la guerre. Il y a des soldats de Valcartier qui sont prêts à partir pour l'Afghanistan. Et il y a toutes des personnes qui sont venues de partout pour manifester, pour dire que non, on veut pas ça, on veut pas la guerre, etc. Le monde est préoccupé par la guerre et la paix. Vous êtes d'accord? Et qu'est-ce que nous allons découvrir aujourd'hui? C'est qu'on ne peut pas connaître la paix sans connaître le prince de la paix. Amen. Il y a des gens qui sont perturbés. Il y a des choses qui se passent sur le plan politique, sur le plan international, mais aussi des choses qui se passent sur le plan personnel aussi. Savez-vous quoi? Qu'ici au Québec, ils disent, et voici une statistique intéressante, que 26%, au moins 26% de la population du Québec, reporte éprouver de la détresse psychologique. 26%, c'est plus qu'une personne sur quatre qui dit qu'il a de la détresse psychologique. Hein? Comme la prochaine image du monde, il y a pas mal de gens qui sont stressés. Vous savez, c'est quoi le stress? Je commençais à dire la stress. C'est le stress, n'est-ce pas? Sauf que quelqu'un a dit une fois, non, ça doit être la stress, parce que c'est toujours les femmes qui sont plus stressantes, mais... Je me donne des troubles. C'est juste pour vous réveiller. Mais les gens sont stressés. Les gens n'ont pas la paix. Il n'y a pas de paix dans le monde. Il n'y a pas de paix dans le cœur. Les gens sont stressés, ils sont inquiets. Pourquoi est-ce que les gens sont tellement inquiets? On a quelques statistiques intéressantes. Je trouve ça bien intéressant, en fait. Savez-vous pourquoi? Que 40% de nos inquiétudes sont les choses qui n'arriveront jamais. On est inquiet, on est stressé. Pourquoi? Parce que peut-être je vais perdre ma job. Ou peut-être je vais attraper la grippe. On est stressé par cela. Mais souvent, 40% des fois, ça n'arrive même pas. 30% de nos inquiétudes sont les choses du passé qu'on ne peut pas changer. Est-ce qu'il y a des gens qui ont été stressés par le passé? Pourquoi est-ce que j'ai fait cette gaffe-là? Pourquoi est-ce que j'ai dit cela? C'est seulement je pourrais reculer. Savez-vous quoi? Une chose que j'ai appris, je suis pas tellement vieux, je suis très jeune, je n'ai que 40 ans, mais j'ai appris une chose dans 40 ans, c'est qu'on ne peut pas reculer dans la vie. On peut juste avancer. Le passé, c'est le passé. Les victoires du passé, on peut pas les revivre. Les échecs du passé, on peut pas les revivre non plus. N'est-ce pas une bonne nouvelle que c'est passé? Puis 12% de nos inquiétudes sont les choses que les autres ont critiquées, la plupart étant fausses. Il a dit quoi? Moi, je sais c'est quoi. Moi, j'ai déjà perdu du sommeil à cause des paroles des autres personnes. Et j'ai appris, gloire à Dieu, comment dormir comme un bébé. Non, ça, c'est pas une bonne expression. Ceux qui ont des bébés, vous savez, dis pas dormir comme un bébé parce qu'ils se réveillent 2-3 fois la nuit et... Non, dormir comme une bûche, c'est ça. Mais j'ai appris dans les années comment dormir quand même, malgré les commentaires des autres, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui va faire un commentaire. Vous êtes d'accord? On peut pas s'arrêter là. On peut pas se laisser déranger ou être stressé par les critiques des autres personnes parce que normalement, souvent même, c'est même pas vrai. Vous êtes d'accord? Donc, 10% des gens sont inquiets à cause de leur santé. Et qu'est-ce qui est vraiment ridicule, c'est que plus ils sont stressés ou inquiets pour la santé, plus la santé est empirée. Notre santé qui s'empire avec le stress de l'inquiétude. Savez-vous quoi? Qu'un bon pourcentage de nos maladies sont psychosomatiques. Vous êtes d'accord avec ça? Même si vous n'êtes pas d'accord, c'est vrai quand même. Donc, on est inquiet. Peut-être je vais avoir de quoi. Puis, finalement, 8% sont les vrais problèmes dont nous faisons face. C'est-à-dire que si on est sage, on devrait être capable de dealer avec 92% de notre stress comme ça. Et juste le 8% qui reste, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Nous avons un Dieu tout-puissant qui est capable de nous aider dans n'importe quelle situation et dans n'importe quel moment on peut avoir la paix. Amen? Et ce matin, On va lire un passage, quelque chose qui s'est passé, vraie histoire, histoire vécue, par un homme qui était stressé. En fait, dans le contexte d'une nation qui était stressée. Tout le monde, à l'époque, était dans le trouble. On va parler de Gédéon. Est-ce que des gens qui ont entendu parler de Gédéon? Gédéon, c'était un homme qui a vécu il y a longtemps, il était une fois, un homme qui s'appelait Gédéon. Mais c'est pas un conte de fable que je vous raconte, c'est la vérité. Regardons qu'était la situation. Juges chapitre 6, verset 1. Les enfants d'Israël firent ceux qui déplaient à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Madiens pendant 7 ans. Donc là, on parle d'un problème majeur, sérieux, pendant 7 ans. La main de Madiens fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madiens, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madiens montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusqu'à vers Gaza et ne laissait en Israël ni vivres, ni brebis, ni bœuf, ni âne. Dans vos notes, vous devrez souligner vivres, brebis, bœuf et âne, parce qu'on voit le problème est grave ici. On voit qu'ils n'ont plus de vivres, c'est-à-dire qu'ils manquent la nourriture. On voit qu'ils n'ont plus de brebis. À l'époque, ils dépendaient aussi, pour plusieurs raisons, des brebis, mais aussi pour faire les vêtements aussi. Donc, ils n'ont pas de nourriture, pas moyen de se vêtir vraiment. Ils n'ont pas de bœuf. Le bœuf était utilisé pour travailler dans l'agriculture. Donc, dans le fond, ils ont des problèmes avec l'emploi. Et puis, finalement, il n'y a même pas d'âne, pas de transport. Donc, imaginez une situation où pendant 7 ans, tu as de la misère à vous nourrir, à vous vêtir, à travailler, et puis même vous déplacer. C'est difficile. C'est plus que difficile. C'est vraiment critique. Verset 5. Quand ils montaient avec leur troupeau et leur tente, ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ça, c'est l'ennemi qui arrive comme ça. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux. C'est pas drôle, hein? Eux autres, ils avaient du transport. Eux autres, ils ont même laissé les cartes d'appel par leurs chameaux, hein? C'est pas drôle, hein? C'est-à-dire qu'ils étaient en train de salir le pays. Et ils venaient dans le pays pour le faire quoi? Ravager. Israël fut très malheureux. Tout le monde est très malheureux. À cause de Madian. Et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Donc, on voit ici qu'ils n'ont pas de paix. Aucune paix. Ils sont très malheureux. Ils ont enfin crié à Dieu. Et Dieu a répondu. Il a envoyé un prophète. Le prophète a dit beaucoup de choses. Une des choses que le prophète a dit en verset 10, c'est ici. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez, mais vous n'avez point écouté ma voix. Donc, qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Je vous ai donné la promesse que vous serez toujours la tête et jamais la queue. Toujours en haut, jamais en bas. Vous aurez toujours la victoire. Que le plan de Dieu pour Israël, c'était d'être une nation supérieure pour démontrer la bonté de Dieu. Mais le contraire est en train de se faire ici. Ils sont opprimés, méprisés. Ils sont dans la détresse. Pas de nourriture, pas de vêtements comme il faut, pas d'emploi, pas de transport. Ils sont très malheureux. Et pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas écouté la voix de Dieu. Savez-vous quoi? Que quand vous et moi, nous n'écoutons pas la voix de Dieu, on ouvre la porte à la misère dans notre vie. Vous êtes d'accord avec ça? Mais regardons. Voici la bonne partie. On arrive. Verset 11. Puis vint l'ange de l'Éternel. N'est-ce pas bon que quand on crie à l'Éternel, il répond? Puis vint l'ange de l'Éternel. Il s'assit sous le térébin d'Opra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. Je veux que vous voyez quelque chose. Il est en train de battre le froment, mais normalement, il aurait fait ça sur une colline. Parce qu'en faisant cela, le vent allait emporter ce qui n'était pas bon. Mais là, il ne pouvait pas travailler comme faux sur la colline. Il est caché dans un pressoir. Parce que l'ennemi est présent. Et si l'ennemi le voit, ils vont venir et ils vont voler la production du pays. Donc, regarde bien. Il est là dans le pressoir. Donc, il est à la cachette, en train de travailler pour mettre à l'abri de Madian. Et verset 12. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi. » Regarde quelqu'un a dit, « L'Éternel est avec toi. » Mais regarde bien. Il n'a pas juste dit, « L'Éternel est avec toi, petit perdant. » C'est ça qu'il a dit? L'Éternel est avec toi, petit perdant. Non, il a dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Et tu sais, Gédéon sûrement a fait, à qui est-ce que tu parles? Parce que là, c'est un gars qui est à la cachette, il a peur de l'ennemi, il fait qu'est-ce qu'il peut faire, au moins il fait quelque chose. Et Dieu va toujours chercher quelqu'un qui fait quelque chose, s'il a besoin de faire quelque chose. Amen. Mais regarde, il est là, et Dieu dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. J'aime ça, parce que la Bible nous enseigne une chose, que Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Et aujourd'hui, si vous pensez que vous êtes en zéro, Dieu veut faire de vous un héros. Et qu'est-ce que nous allons voir, c'est que c'est la paix de Dieu qui va faire la différence dans notre vie. Et c'est le Dieu de paix qui va faire la transformation pour qu'on puisse passer de zéro à héros. Amen. Donc là, il est là, à la cachette, et Dieu lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Comme Boum Desjardins qui chante, « Dieu, où es-tu? Peux-tu m'écouter un peu? » C'est exactement ce que Gédéon est en train de faire. « Ah ouais, tu dis que l'Éternel est avec nous? Si l'Éternel est avec nous, pourquoi tant de misère? Pourquoi si ça nous arrive? Pourquoi à chaque fois que nous semons, à chaque fois que nous plantons et on est prêt à récolter, pourquoi est-ce que l'ennemi vient toujours comme les sauterelles et détruit tout? On n'a même plus... Dans notre pays, on a plus de vie, plus de brebis, plus de bœufs, plus d'ânes, et là, tu dis que l'Éternel est avec nous. C'est quoi l'affaire? C'est quelque chose, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà posé ce genre de questions à Dieu? Si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Regarde, moi je ne veux pas juste parler d'un Dieu qui a fait des choses dans le passé. C'est ça qui arrive ici. On a un peuple, une nation qui avait un héritage spirituel, mais qui n'avait pas une relation authentique avec Dieu. Ils ont entendu parler, « Ah oui, je sais quand nous sommes partis de l'Égypte, que Dieu a fait un miracle à la mer Rouge, je sais qu'il a fait sortir de l'eau du rocher, je sais qu'il a fait tous ces miracles, mais où est-il maintenant? Est-ce qu'il est parti? Est-ce qu'il nous a abandonnés? » Et souvent, on voit dans les églises aujourd'hui, « Ah oui, je sais que dans le bon vieux temps, que Dieu faisait des miracles, des prodiges, des signes, mais qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? » Laisse-moi vous dire que Dieu n'a pas changé. C'est nous qui avons changé. Dieu ne nous a pas abandonnés, nous avons abandonné Dieu. C'est exactement ce qui s'est passé avec Israël. Mais regarde bien. Il dit, « Maintenant l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. » Laisse-moi vous dire, c'est eux autres qui ont abandonné Dieu. Verset 14, l'Éternel se tournant vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » Je veux que vous compreniez une chose. Non, n'oubliez pas, un petit gars qui se cache, il travaille, il veut pas faire trop de bruit, et il dit, hey, « Dieu nous a abandonnés. » Et Dieu lui dit, « Maintenant, va avec la force que tu as. Je veux que ce soit toi, vaillant héros, qui va délivrer toute la nation. » Quelque chose, hein? N'oubliez pas que l'ennemi est innombrable. Et Gédéon, il avait peur Regarde bien qu'est-ce qui se passe. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Verset 15, Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre à Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Je suis le plus petit de la famille, la plus petite dans toute la nation. Comment ça que tu veux que j'aille délivrer le peuple? » Mais Dieu a répondu, l'Éternel lui dit, « Mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. » Dieu est bon. Et Dieu, il prend plaisir à confondre la sagesse des hommes en utilisant les choses folles de ce monde. Donc, si vous pensez que vous êtes impuissant, incapable de faire grand-chose, vous êtes un bon candidat pour faire des prodiges avec Dieu. Mais si vous pensez que vous êtes vraiment quelqu'un, toujours en train de, comment on dit ça, péter les bretelles, hein? J'ai peut-être pas prononcé comme faux, mais... De toute façon, la Bible dit une chose, que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. Et si on peut s'humilier devant Dieu, Dieu peut faire des grandes choses. Donc, Gédéon, il est allé préparer un sacrifice, donc il a offert un sacrifice, et puis finalement, verset 22, parce qu'il avait encore des doutes, est-ce que je rêve? Qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez imaginer. Et finalement, verset 22, Gédéon, voyant que c'était vraiment l'ange de l'Éternel, dit, « Malheur à moi, Seigneur Éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. » Et on sait qu'on ne peut pas regarder la face de Dieu et vivre. Mais Dieu est miséricordieux. Regarde bien. Et l'Éternel lui dit, « Sois en quoi? Sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. » Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Tout le monde dit l'Éternel paix. Et ça, c'est quelque chose. L'Éternel paix, il existe encore aujourd'hui à Oprah qui appartenait à la famille de Biaizar. Donc là, on voit qu'il a donné le nom à cet autel, l'Éternel paix. Et en hébreu, on sait que l'Éternel paix égale Jéhovah Shalom, l'Éternel, notre paix. Mais quand on parle de la paix de Dieu, ce n'est pas une paix comme le monde parle ou connaît. La paix de Dieu, c'est spécial. Et si on peut parcourir l'Ancien Testament, à chaque place qu'on voit le mot « shalom » traduit en français, c'est traduit par plusieurs mots. Des fois, c'est traduit « paix ». Mais savez-vous quoi? Des fois, c'est traduit « bien-être ». Des fois, c'est traduit « prospérité ». Il y a une longue liste, je n'ai pas le temps de vous donner la longue liste des mots qui peuvent signifier « shalom ». Regarde quelqu'un a dit « shalom ». Savez-vous, en Israël, même aujourd'hui, quand les gens se présentent, comme nous disons quoi? Nous allons dire souvent « salut ». Salut. N'est-ce pas bon quand on dit « salut » C'est pas juste une petite salutation, mais ça représente quelque chose aussi. Ça devrait représenter quelque chose. Mais quand quelqu'un dit « shalom » en Israël, qu'est-ce qu'il veut dire? Le mot « shalom » veut dire « rien de brisé et rien qui manque ». Que rien soit brisé dans votre vie et que rien manque dans votre vie. Gédéon avait des problèmes. Il y avait plein de choses qui ont été brisées. Les récoltes ont été brisées. Il manquait les vivres. Il manquait les brebis. Il manquait les bœufs. Il manquait aussi les ânes. Pas de nourriture. Pas de vêtements comme il faut. Pas de travail. Pas de... C'est quoi l'autre chose que j'ai dit? Ouais, pas de transport. Pas de paix. Mais là, on voit que Dieu est en train de dire, non, maintenant, je t'envoie, je serai avec toi, va délivrer ce peuple. Et là, il a eu une révélation. Le Dieu, Jéhovah Shalom, est avec moi. C'est lui qui va faire en sorte que tout ce qui est brisé va être réparé. Et tout ce qui me manque, il va le pourvoir. Pas juste pour moi, mais pour toute la nation, pour tout le pays. Il va restaurer la paix. Et quand on parle de restaurer la paix, on ne parle pas juste de l'absence de la guerre. On parle de rien de brisé et rien qui manque. Et qu'est-ce qui est vraiment merveilleux? C'est qu'on sait que Dieu, Jéhovah Shalom, il s'est fait chair un jour. Que Dieu est devenu un homme. Cet homme s'appelle qui? Jésus. Jésus est 100% Dieu et 100% homme. Et qu'est-ce que nous savons? C'est que Jésus est le prince de paix. Regardons le verset en Ésaïe chapitre 9. Ésaïe chapitre 9, verset 6, qui dit, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, et quoi? Prince de la paix. » Vous ne pouvez pas avoir la paix sans connaître le prince de la paix. S'il y a des choses qui sont brisées dans votre vie, s'il y a des choses qui manquent dans votre vie, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Le prince de la paix veut restaurer tout cela. Jéhovah Shalom veut vous donner la paix. Jésus a dit quelque chose en Jean chapitre 14, verset 27. Je vous laisse la paix. Je vous donne quoi? Ma paix. Je vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. J'aime ça parce que Jésus, il est le prince de la paix. Il est venu pour nous donner la paix, pas n'importe quelle paix, mais sa paix. La paix qui était en lui. Vous vous rappelez quand ils étaient dans la barque et Jésus a dit, passons à l'autre bord. Et puis au milieu du lac, il y avait une grande tempête et puis l'eau commençait à rentrer dans la barque et tous les disciples avaient peur. Oh, nous allons périr. C'était la panique totale. Où est-ce que j'étais? Qu'est-ce que Jésus était en train de faire pendant la tempête? Il dormait sur un coussin. Il était tranquille, calme, malgré la tempête. Même si la tempête était dans le bateau, la tempête n'était pas en lui. Et nous avons besoin d'apprendre cela aussi. Et finalement, on sait qu'est-ce qu'il a fait. Les disciples l'ont réveillé. Jésus a dit, tais-toi, sois calme. Et le vent a cessé. Et il y avait un grand calme, la Bible dit. Tout le monde dit un grand calme. Est-ce qu'il y a des gens ici qui aimeraient avoir ou retrouver un grand calme dans votre vie ce matin? Aimeriez-vous avoir un grand calme dans votre cœur? Peut-être des choses sont perturbées, bouleversées. Dieu, aujourd'hui, il veut vous calmer. Jéhovah Shalom, qui ne changera jamais, il est présent, il est là pour vous calmer. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Jésus dit, pas comme le monde le donne, c'est pas comme ça que je vous donne la paix. Une chose que je sais, que quand le monde cherche la paix, j'ai lu cela, je trouve que c'est intéressant, ça vaut la peine de le lire pour vous. Comment le monde donne-t-il la paix? Vous savez comment? Quand quelqu'un de ce monde est perturbé, inquiet ou troublé, il essaie de faire une des trois choses. Premièrement, il essaie de changer les circonstances. Des fois, c'est possible, mais des fois, c'est pas possible. Parce que sa paix vient des circonstances paisibles. Il peut être dans la paix seulement quand tout est paisible autour de lui. Ça, c'est une bonne description de beaucoup de gens, n'est-ce pas? Alors, il essaie désespérément de changer les circonstances. Pourtant, les circonstances ne peuvent pas toujours être changées. Alors, s'il ne peut pas les changer, il essaie de les oublier et de se sauver. Première chose, on va changer ça. Si on ne peut pas le changer, on se sauve. Comment est-ce qu'on va se sauver? Comme c'est marqué ici, il part en vacances. Il retourne voir maman. Maman! Il prend de la drogue ou il s'enivre. Je vais juste oublier ça. Là, je vais trouver encore la paix. Oublier de cette manière, c'est la façon que le monde obtient un certain degré de la paix. Si cela ne marche toujours pas, la troisième chose qu'il fait, c'est de blâmer quelqu'un d'autre pour ses problèmes. Connaissez-vous quelqu'un qui vous a blâmé pour tous ses problèmes? Le problème, c'est pas avec vous souvent, le problème, c'est en eux. Ils ne sont pas bien dans leur peau. Et parce qu'ils ne sont pas bien dans leur peau, il faut trouver la paix, il faut trouver quelqu'un sur qui on peut mettre le blâme, n'est-ce pas? Mais regarde bien, c'est la faute à tout le monde, sauf lui. Alors la personne mondaine cherche toujours la paix, mais ne la trouve jamais de cette façon. C'est pourquoi Jésus dit, « Je ne vais pas te donner la paix comme cela, pas comme le monde te le donne. » Amen. Comment est-ce qu'il le donne? Il donne la paix en dedans, à l'intérieur de notre cœur. Et il nous la donne quand nous nous nourrissons de son affection et de sa puissance, en reconnaissant que ses promesses sont vraies et abandonner tout entre ses mains, alors tu auras la paix. Bonne chose, n'est-ce pas? Donc, juste pour terminer aujourd'hui, moi, j'ai vraiment à cœur de vous donner 7 bons conseils. Parce que notre but ce matin, c'est pas juste de remplir la tête avec la connaissance. On veut pas avoir l'information. Moi, je cherche une transformation. Et vous? Moi, je veux être transformé par la paix de Dieu, par Jéhovah Shalom. Et moi, j'ai découvert que dans la vie, il y a des ennemis de ma paix. Il y a des choses qui essaient toujours de voler ma paix. Et si je laisse ma paix partir, je me trouve dans le trouble. Je me trouve dans une situation où les choses commencent à briser dans ma vie. Les choses commencent à manquer dans ma vie. Donc, ce matin, juste pour terminer, je vais vous donner 7 choses à faire pour vaincre les pires ennemis de la paix. Est-ce que ça vous intéresse? Numéro 1, c'est quoi le premier ennemi de notre paix? Ça, c'est une vie spirituelle négligée. Savez-vous quoi? Que si je néglige ma vie spirituelle, c'est impossible que je sois dans la paix. Et premièrement, il y a tout un groupe de personnes qui n'ont jamais eu la connaissance du prince de la paix, et eux autres, ils vont jamais être heureux. Ces personnes vont jamais être contentes parce qu'ils ne connaissent pas la source de la paix. Et puis, il y a un autre groupe de personnes qui ont connu Jésus, qui ont invité Jésus dans leur vie, mais avec le temps, ils se sont éloignés de lui, ou ils négligent, ou ils oublient la présence de Dieu dans leur vie, et ça ouvre la porte à toutes sortes de problèmes, toutes sortes de brisements, toutes sortes de manquements. On connaît cela, n'est-ce pas? Donc, c'est quoi la solution? Recevez la paix. Recevez la paix en étant réconcilié. Première chose, si vous n'êtes pas en paix avec Dieu à cause de vos péchés, il faut recevoir le don de Dieu, le sacrifice de Jésus, pour être réconcilié avec lui. Étant donc justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Regardez-moi droit dans les yeux. La chose qu'il ne faut jamais oublier, la Bible dit clairement que si nous ne connaissons pas Jésus, nous sommes considérés un ennemi de Dieu. Dieu nous aime, mais il y a une ennemité entre nous et Dieu. On ne peut pas avoir une relation avec Dieu si Jésus, le prince de la paix, n'est pas dans notre cœur. C'est pourquoi la première chose, si vous voulez la paix dans votre vie, soyez réconciliés avec Dieu. Et quand vous recevez Jésus, bonne nouvelle, le Saint-Esprit est répandu dans votre cœur. Le fruit de l'Esprit est déposé dans votre esprit. C'est quoi le fruit de l'Esprit? L'amour, la joie et la paix. Donc la paix de Jésus, la paix qu'il a permis de dormir pendant une tempête, cette paix est transmise à chaque croyant dès qu'il confesse Jésus. Donc ça, c'est une chose qu'on a besoin de croire et de cultiver par la foi. Pas besoin de chercher la paix quelque part. Mais je peux puiser la paix qui est déjà en moi. Regarde quelqu'un et dis shalom. Que la paix de Dieu soit avec vous. Puis deuxième chose qui vole ma paix, c'est les circonstances bousculées. Savez-vous que des fois dans la vie, il y a des choses qui arrivent. Des fois, il y a des pannes d'auto. Des fois, le frigo arrête de marcher. Ça, c'est toujours le fun, n'est-ce pas? Des fois, on est prêt à partir, et juste avant de partir, quand on avait des jeunes enfants, on est pressé, on y va, tout le monde est propre et prêt à aller, et puis tout d'un coup, on sent qu'il y a une couche à changer. Ça peut enlever la paix vite, vous êtes d'accord? Donc, les choses comme ça, il y a certaines choses dans la vie qu'on ne peut pas changer. Je peux pas prendre autorité sur mon enfant et dire, à partir d'aujourd'hui, tu ne vas jamais plus salir une couche. On peut pas prier, Seigneur, fais en sorte que j'ai jamais plus un problème. Non, Jésus a dit, dans ce monde, vous aurez la tribulation, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Donc, il y a des choses qu'on ne peut pas changer, mais il y a d'autres choses, d'autres circonstances qu'on peut changer. Il y a des maladies qui essaient de nous attaquer. Et savez-vous quoi? Des fois, on peut prendre autorité sur ces maladies. On dit non, arrête. On peut dire à Satan, quand Satan essaie de jouer un tour, on peut prendre autorité et dire non, je te commande au nom de Jésus que tu désistes dans tes manœuvres contre moi et contre ma famille. Qu'est-ce que Jésus a fait avec la tempête? Il a parlé à la tempête. Et ça, c'est qu'est-ce qu'on a besoin de faire aussi. Parlez à vos tempêtes et ne vous laissez pas ébranler. Il faut avoir la sagesse de Dieu, savoir comment distinguer entre les moments où Ça, c'est juste la vie naturelle. On ne peut rien faire pour changer ça. Et des moments où c'est une attaque de l'ennemi ou des choses qu'on peut changer par la parole de Dieu. On sait que c'est la volonté de Dieu que ça change. Donc, on prend l'autorité et on parle. Comme Jésus a parlé à l'arbre. Et l'arbre a été desséché des racines. Marc 11, 23 dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point son cœur, mais croit que ce que dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Regardez-moi, laissez pas l'ennemi vous déranger avec ces tempêtes. Parlez à vos tempêtes. Parlez et déclarez la paix. Déclarez la paix au milieu de la tempête et vous allez voir le grand calme restauré. Tout le monde dit le grand calme. Amen. Donc, des fois, vous allez voir des choses que ça va changer. Il y a d'autres moments, comme je dis, on ne peut pas le changer. Il va falloir qu'on passe à travers la tempête, mais on a toujours la paix dans le cœur. On n'est pas ébranlé. Numéro 3, c'est quoi notre ennemi de ma paix? C'est les besoins non rencontrés. Savez-vous quoi? Que s'il y a une chose qui peut vraiment enlever la paix rapidement, c'est quelqu'un qui reçoit la facture de Hydro-Québec et puis il regarde le montant qui est dû, il regarde le montant qui est dans son compte de banque et il y a quelque chose qui manque. Il n'y a pas de paix. Il n'y a pas de shalom. Il y a quelque chose qui manque. Hein? Ça prend temps pour payer la facture, mais je n'ai que ça. Combien de vous savez que ça peut vous stresser vite? Il n'y a personne ici qui comprend cela? Donc, c'est pas parce qu'on est... Laisse-moi vous dire, la solution, c'est pas de blâmer quelqu'un d'autre. Hein? Ça, c'est notre tendance, n'est-ce pas? On va blâmer la compagnie Hydro-Québec. Hey, Charles Ben Faucheur. On a quelqu'un qui travaille pour Hydro-Québec ici, donc faisons attention, là. Je vais pas le mentionner le nom parce que... on veut pas mettre sa vie en danger, non. On blâme pas les autres, mais savez-vous quoi? Quand on a ces situations, quand les besoins ne sont pas rencontrés, ça peut enlever notre paix. Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce que ça va donner quelque chose à être inquiet, être stressé? Non. La Bible nous donne la solution. Priez et louez au lieu de vous inquiéter. Philippiens 4, 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose. Tout le monde dit en toute chose. Faites connaître vos quoi? Vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce et la quoi? La paix de Dieu. Intéressant parce qu'en grec, le mot paix, c'est Irène. OK? E-I-R-E-N-E. Et ça veut dire littéralement de rejoindre les parties qui sont séparées. Savez-vous que des fois, quand on est vraiment stressé, c'est comme si il y a des choses, on est tiré de tous côtés, n'est-ce pas? Il y a une partie qui est tirée là, une partie qui est tirée... c'est comme on est en train de perdre le contrôle. Mais quand on est dans la paix, quand la shalom de Dieu agit dans notre vie, quand les rênes de Dieu, tous les morceaux de notre vie reviennent ensemble... dans un seul endroit, parce qu'on est concentré sur une seule personne, le Seigneur Jésus-Christ. Donc, on n'a pas besoin d'être inquiet, on peut prier, on peut louer, au lieu de s'inquiéter. C'est quoi notre source de manquement de paix? C'est les relations brisées. Moi, je sais que quand on a un problème avec quelqu'un que nous aimons, ou quelqu'un qu'on est supposé d'aimer, on a de la misère à aimer, que ça peut... voler notre paix si on ne fait pas attention. Est-ce que vous êtes d'accord? Ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a eu cette expérience une fois dans sa vie? La paix est comme partie parce qu'il y avait une rupture dans une relation, au travail ou dans un mariage. Est-ce qu'il y a quelqu'un à part moi? Il y a à peu près 5-10 personnes. Wow! Peut-être les autres qui n'ont pas eu cette expérience, pouvez-vous venir nous renseigner? Parce que moi, je sais que souvent, moi, je dirais que sur ma liste, ça serait peut-être numéro un, la chose qui a causé le plus de problème qui a volé ma paix plus qu'autre chose, c'est de voir les relations brisées. Ça fait quelque chose, ça me fait de quoi? Et vous? Mais la Bible nous donne quand même des instructions. Il dit, poursuivez la paix dans toutes vos relations. Poursuivez la paix. C'est quelque chose. Il y a un verset en Pierre chapitre 3 qui dit qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Vous avez vu à la télévision des fois, ils ont des émissions avec des policiers qui vont faire une poursuite à haute vitesse. Quelqu'un qui vole la banque et un policier est juste à côté. Et le policier dit, monsieur, arrêtez s'il vous plaît. Si le criminel dit, non, ça ne me tente pas de m'arrêter, je m'en vais. Oh, s'il te plaît, arrête. S'il te plaît, je vais te donner, je peux te faire un voyage dans mon patrouiller, dans mon auto. Mais écoute, le policier ne va pas juste laisser le criminel partir comme ça. Non, il va poursuivre. Il va courir. Il va faire tout son possible pour attraper le méchant. Vous êtes d'accord? Mais la Bible dit qu'il faut rechercher la paix et la poursuivre. Mais la plupart de nous, quand nous avons un problème, surtout avec quelqu'un d'autre, on essaie de réconcilier. Veux-tu me pardonner? La personne dit non. OK, ben tant pis. Non, on a besoin de poursuivre. Une fois, je m'en souviens, un dimanche matin, j'avais demandé à un volontaire. Vous vous rappelez de cela? Michael Weller, il n'est pas là ce matin, non? Peut-être Michael est là. Tu t'en souviens, Michael? Ah, c'était le fun, hein? J'ai demandé à Michael de venir en avant et je dis, bon, maintenant, j'aimerais que tu cours. Je vais essayer de t'attraper. Laisse-moi te dire, il a couru, hein? J'étais essoufflé après. Je suis quelqu'un qui est assez en forme, mais avec tout mon cœur, je voulais poursuivre pour l'attraper. Et c'est la même chose. Il y a un verset que j'aime tellement quand on parle de la paix et les relations. Romains 12, 18, qui dit, « S'il est possible, et autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Remarquez bien, s'il est possible, cela me dit une chose. Ce n'est pas toujours possible d'être en paix avec tout le monde. Parce que chaque personne est un libre arbitre. Si quelqu'un décide, je ne veux pas être ton ami, je ne peux pas le forcer. Savez-vous quoi? Même Dieu, regarde bien, Dieu lui-même, ne peut pas forcer les êtres humains à être en paix avec lui. Chaque personne a le pouvoir de choisir. Et c'est pas toujours possible, mais s'il est possible, et autant que dépend de moi, je vais être en paix avec tout le monde. Et je peux vous dire aujourd'hui, avec une conscience qui est pure et nette devant Dieu, qu'aujourd'hui, le 24 juin 2007, Ken Taylor n'a pas de la rancune dans son cœur pour qui que ce soit sur la planète Terre. Je suis personnellement, de mon côté, en paix avec tout le monde sur la planète Terre. Et je dors bien. Je ne peux pas dire que tout le monde est peut-être en paix avec moi, je ne sais pas. Il y a peut-être des gens que même là, peut-être même dans la salle aujourd'hui, il y a des gens que vous êtes frustrés, je vous ai offensé involontairement un jour et vous n'êtes pas en paix avec moi. Peut-être. J'espère que ce n'est pas le cas. Si c'est le cas, venez me voir, on va régler ça. Mais je suis en paix. Gloire à Dieu! Et vous, est-ce que vous êtes en paix? Alléluia. Donc, numéro 5, les projets échoués. Les projets échoués. Ça, c'est une chose qui peut nous stresser, n'est-ce pas? On a des projets, on a besoin de faire ceci et cela, et ça marche pas, et quand ça marche pas, c'est stressant. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Moi, je pense que le plus grand problème que nous avons dans ce domaine, c'est que nous formons nos propres projets, au lieu de chercher les projets de Dieu. Et si moi, je dis, bon, j'ai une idée, je vais faire ceci et cela, et je vais demander à Dieu de bénir mon projet, ça marche pas toujours comme ça. Vous savez, un autre moyen, je peux chercher le plan de Dieu qui est déjà béni, déjà destiné pour le succès, et là, je peux dire, Seigneur, montre-moi ton plan, tes projets, je vais marcher avec toi, dans tes voies, et là,
Je vais rester dans les chemins qui sont paisibles, les sentiers qui sont paisibles. Le shalom de Dieu, rien de brisé, rien qui manque, va m'accompagner. Amen. Donc, regardons, c'est quoi la solution pour les projets échoués? Laissez la paix vous gouverner. C'est-à-dire que quand vous avez des décisions à prendre, est-ce que je dois prendre un tel emploi? Est-ce que je devrais changer d'emploi? Est-ce que je devrais me marier? Est-ce que je devrais faire ceci ou faire cela? Est-ce qu'on devrait avoir des enfants? Est-ce qu'on devrait prendre une vacance? Vous avez des projets? Voici quelque chose, on pourrait faire toute une série là-dessus. Laissez la paix de Dieu vous gouverner. Regardons le verset. C'est tellement bon. Laissez régner souverainement dans vos cœurs la paix instaurée par le Christ. Qu'elle gouverne toutes vos décisions. Soulignez cette phrase. Qu'elle gouverne toutes tes décisions. Vous êtes indécis, vous ne savez pas quoi faire, laissez la paix vous guider. Même si votre tête dit, ah oui, ça c'est le meilleur choix, ça c'est la chose à faire. Dans la tête, c'est logique, mais dans ton cœur, vous n'avez pas la paix, fais le pas. Amen? Et des fois, le Seigneur va vous diriger par la paix et c'est même pas logique, des fois. Mais vous avez la paix. Et c'est quand même, c'est pas logique, mais c'est quand même en ligne et en parallèle avec la parole de Dieu. Dieu ne va jamais vous demander à faire quelque chose qui est contraire à la parole écrite de Dieu. Donc, ça, c'est notre guide numéro un. Vous êtes d'accord? Guide numéro deux, c'est la paix de Dieu qui est dans notre cœur. Souvenez-vous-en, membres d'un même corps, vous êtes appelés à vivre dans l'harmonie. Apprenez enfin à vous montrer reconnaissant. Donc, laissez-vous dominer et guider, gouverner, que la paix de Dieu gouverne toutes vos décisions. En fait, la Bible dit dans une traduction que la paix de Dieu soit l'arbitre. Vous avez deux choix, que la paix décide. Numéro 6, la conscience violée. Est-ce qu'il y a des gens ici, vous n'avez pas la main, qui ont violé leur conscience dans le passé? Moi, je l'ai fait. Et Serge, merci pour ton honnêteté. Mais je ne dis pas, vous n'avez pas les mains. Mais moi, je sais. On a tous au moins une fois dans la vie violer la conscience. Et qu'est-ce que ça fait? Moi, je sais, c'est difficile à dormir quand on a violé notre conscience, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes d'accord? Moi, je ne sais pas comment certaines personnes qui vont mentir au public, comment ils peuvent se regarder dans le miroir à tous les jours, parce que la paix de Dieu est partie quand on va violer notre conscience. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire dans ce moment? Aimer la parole et la respecter. Psaume 119, 165 dit, il y a beaucoup de paix pour qui? Pour ceux qui aiment ta loi. Et il ne leur arrive aucun malheur. Est-ce que ça vous intéresse, ce genre de vie-là? Pas des aucun problème, mais aucun malheur. Et regarde bien, ceux qui aiment la loi de Dieu, ceux qui respectent la loi de Dieu, ceux qui obéissent à la loi de Dieu, ceux qui obéissent à leur conscience vont rester dans la paix. Donc, si vous voulez rester dans la paix, aimez la parole et la respectez. Numéro 7, les pensées tourmentées. S'il y a un domaine où l'ennemi aime voler notre paix, c'est ici, entre nos oreilles. Il aime faire tourner les pensées qui ne sont pas en ligne avec la volonté révélée de Dieu. Est-ce qu'il y a des gens qui savent c'est quoi être tourmenté dans vos pensées? Moi, je sais c'est quoi. Les deux mains, les pieds, oui, je sais exactement. Mais bonne nouvelle ici, vous n'êtes pas obligé d'être dominé par vos pensées. Mais vous pouvez dominer vos pensées. Et ça, c'est la solution. La dernière chose qu'on voit ce matin, c'est que par la puissance de Dieu, maîtrisez vos pensées. Par la puissance de Dieu. Bonne nouvelle! Dieu, Jéhovah Shalom, le Dieu qui va faire en sorte que rien soit brisé et rien manque dans votre vie, il vous a donné la puissance nécessaire pour maîtriser vos pensées. Et quand vous pensez comme Jésus pense, vous allez avoir les résultats que Jésus a eus. Amen? Donc, regardons bien, dernier verset ici, 2 Corinthiens 10, 3. Et puis, Jean-Charles, si tu peux venir. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes. N'est-ce pas bon que Dieu nous a donné les armes puissantes? Par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses, nous renversons des raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ.
souligner cette phrase, toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Savez-vous, ça c'est la clé pour rester dans la paix. Si, à chaque fois que j'ai une pensée, je me pose la question, est-ce que cette pensée est en accord avec la Bible? Si je dis oui, je garde la pensée, je médite. Mais si je vois, non, ça c'est pas une pensée qui est en accord avec la Bible, je le prends captif, je dis non, je refuse. Je prends chaque pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ. Amen. Combien de vous, vous voulez vivre dans la paix? Aujourd'hui, on va juste prendre quelques minutes de plus pour donner l'occasion à tous ceux et celles qui sont ici qui n'ont pas encore cette paix, de retrouver cette paix. Et j'aimerais juste demander qu'on ne bouge pas trop pour les prochaines quelques minutes. J'ai quelque chose à vous annoncer. Ça va prendre juste une minute. Mais je suis convaincu qu'il y a des gens ici ce matin, qui disent, dans ma vie, je ne peux pas vous dire vraiment que rien n'est brisé, que rien manque. Il y a plein de choses de brisées. Mon cœur est brisé, mon cœur est déchiré, il y a plein de choses qui manquent. Peut-être vous n'avez jamais eu la connaissance de Jésus, vous n'avez jamais rencontré le prince de la paix. Je vais vous donner l'occasion de le rencontrer aujourd'hui avant de partir. Et Jéhovah Shalom, le Dieu de paix, il va entrer dans votre cœur, il va restaurer tout ce qui est brisé, il va pourvoir pour vous tout ce qui manque dans votre vie. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Mais peut-être vous l'avez déjà connu dans le passé, mais vous vous êtes éloigné de lui et vous avez ouvert la porte à l'ennemi. Il y a plein de choses de brisées qui ont besoin d'être restaurées. Je vais vous donner l'occasion de revenir à Jésus aujourd'hui. Amen. Donc en fait, il y a juste trois choses que je veux que vous sachiez quand on parle d'être en paix avec Dieu. La première chose qu'il faut savoir, c'est que, et c'est ici sur l'écran, c'est que tes péchés t'ont séparé d'avec Dieu. N'importe qui, même si vous êtes une bonne personne, si vous n'avez pas encore reçu Jésus-Christ, vous êtes séparé de Dieu par les péchés. La Bible dit, Romains 3, 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, sans exception. Donc pensez à cela. Hein? Tous, sans exception, sont privés de la gloire de Dieu. Une image que nous avons ici, on voit les êtres humains qui sont séparés d'avec Dieu. Dieu est saint à 100%, mais l'homme est pécheur. Et l'homme ne peut pas rejoindre Dieu parce qu'il y a une division. Il ne peut pas, par ses bonnes œuvres, par ses bonnes intentions, il ne peut pas se rendre agréable à Dieu. Impossible. Donc la deuxième chose qu'on a besoin de faire, c'est seulement Jésus qui peut nous sauver. En fait, Romains, chapitre 6, verset 23, dit « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. » Savez-vous quoi? Être sauvé de ses péchés, être en paix avec Dieu, c'est un don gratuit qu'on ne peut pas mériter. Regardons l'autre image ici. On sait que la seule façon de traverser, c'est par le pont de Jésus, c'est qu'avec son sacrifice de sang, il a fait un pont par sa croix. Mais savez-vous quoi? Ce n'est pas assez juste de croire que Jésus est le seul sauveur et de croire que c'est seulement lui qui peut nous sauver. Ce n'est pas assez. Il faut prendre une décision. Troisième chose que je veux que vous voyez, c'est qu'il faut recevoir personnellement le don de Jésus-Christ. Il faut recevoir personnellement. Jean chapitre 1, verset 12 dit, « À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le droit de devenir enfant de Dieu. » Regardons la dernière image ici. Et posez-vous la question ce matin, regardez-moi, où êtes-vous? De quel côté de la croix est-ce que vous vous trouvez? Est-ce que vous êtes toujours du côté de la mort, la rébellion, le péché, la misère, pas de paix? Ou est-ce que vous avez déjà traversé le pont et vous êtes déjà rendu à la place de la paix, le pardon et la joie? La paix de Dieu vous attend. Le Jéhovah Shalom, il veut vous donner la paix aujourd'hui. Mais pour recevoir cette paix, c'est pas assez de dire « Oui, je crois que Jésus a fait le pont. » Il faut prendre une décision. Je vais traverser le pont. Savez-vous quoi? Il y a beaucoup de personnes qui, pendant des années, ils ont fréquenté Jésus. Ils ont fréquenté des églises sans jamais recevoir Jésus personnellement dans leur cœur. Être assis dans l'église ne peut pas vous sauver. Comme s'asseoir chez McDo ne peut pas faire de vous un hamburger. Il faut. Vous dites « Mais moi, je pensais que j'étais chrétien. Penser, c'est pas assez. Mais je lis la Bible. Lire la Bible ne peut pas vous faire traverser le pont. Oh, mais je suis une bonne personne. Je suis toujours gentil avec tout le monde. Ça ne peut pas vous faire traverser le pont. Mais je prie, la prière ne peut pas vous faire traverser le pont. La seule et l'unique façon de traverser le pont, c'est, je vais vous donner quatre choses. Numéro un, accepte que tu ne peux pas te sauver toi-même. Impossible. Éphésiens 2:8 dit, car c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. On ne peut pas se sauver soi-même. Impossible. Et c'est pas juste ça. On sait aussi que, numéro 2, il faut tourner vers Dieu et changer votre façon de vivre. Une fois qu'on se rend compte du fait que je ne peux pas me sauver, je suis séparé d'avec Dieu, il faut que je tourne vers lui. Je dis, à partir d'aujourd'hui, je ne vis plus pour moi-même, je vais vivre pour Jésus. La Bible dit, repentez-vous. Acte 2, 38. Et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Puis numéro 3, il faut, après avoir tourné vers Dieu, qu'est-ce qu'on appelle la repentance, il faut confesser avec sa bouche le Seigneur Jésus et croire dans son cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. C'est quoi un Seigneur? Un Seigneur, c'est un maître, n'est-ce pas? Si Jésus est vraiment votre Seigneur, c'est lui qui est en charge de la vie. Ce n'est pas juste quelqu'un, oh oui, je crois en Jésus. Non, il faut que Jésus soit ton Seigneur, ton maître. Et si tu confesses avec ta bouche le Seigneur Jésus, et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Puis finalement, quatrième chose qu'il faut qu'on voit ce matin, c'est qu'il faut être prêt à professer Jésus devant les autres. Je vous pose la question aujourd'hui. Si vous quitterez la salle aujourd'hui, et tout d'un coup, votre cœur arrête de battre, savez-vous sans aucun doute que vous êtes prêt à rencontrer votre Créateur? Sinon, il faut qu'on soit prêt. Comme Jésus dit ici à Matthieu 10, que si tu me confesses devant les hommes, je te confesserai devant mon Père qui est au ciel. Mais si tu me renies devant les hommes, je te renierai devant mon Père qui est au ciel. Donc ce matin, je vais vous donner l'occasion de traverser le pont. Si vous avez le moindre doute, donc, deux invitations ce matin. Premièrement, si vous voulez traverser le pont, être sûr, sans aucun doute, que vous êtes passé de la mort à la vie. Et vous n'avez pas honte de dire à tout le monde que oui, je veux suivre Jésus. Et s'il vous plaît, je vous invite à rester tranquille, juste une minute de plus. C'est le moment le plus important de la réunion d'aujourd'hui. C'est peut-être la question entre l'enfer et le ciel pour quelques personnes. Savez-vous quoi? Je ne fais pas ça parce que je n'ai pas autre chose à faire. Mais c'est parce que je vous aime et je sais que Dieu vous aime et Dieu veut que vous receviez la vie éternelle aujourd'hui. Donc, si vous avez déjà fait cela, je veux que vous priez pour les gens. Mais aujourd'hui, je vous invite deux choses. Si vous n'avez jamais traversé le pont, vous voulez donner votre vie à Jésus et même vous n'avez pas honte de dire aux autres « Je suis prêt à suivre Jésus ». Ou deuxièmement, si vous êtes éloigné de Jésus, vous voulez revenir à Jéhovah Shalom, le Dieu de paix, pour qu'il soit capable de restaurer tout ce qui est brisé, qui manque. Quand je tape ma main, je vais juste taper ma main comme ça, sans hésiter, mettez votre main dans l'air et dites, oui, je veux l'accepter. OK? Sans hésiter. Donc, si vous voulez donner votre vie au Seigneur Jésus, je vais compter à trois. Un, deux, trois. Levez votre main. Il y a une, deux personnes. Je vous invite, trois personnes ce matin. Donc, je vous invite juste à venir ici avec moi. Je vais prier avec vous ici. Venez. Soyez pas gênés. C'est bon, vous avez levé votre main. Venez. C'est bon. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur pour ces trois personnes? Ton nom, c'est? Denis. Denis, la meilleure décision que tu as jamais faite. Toi, c'est? Benoît. Denis, Benoît. Madame, c'est? Denise. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur pour ces trois personnes ce matin? Si tu veux juste venir ici et me regarder, je veux vous expliquer une chose. Viens juste ici. Denise, Benoît et... OK. Denise et Benoît. OK, bon. Vous savez, ça a pris du courage de venir ici en avant. Mais Jésus l'a dit. C'est pas moi qui l'a inventé. Si tu me confesses devant les hommes, je te confesserai devant mon Père. C'est bien, bien important, cette décision. J'aimerais juste faire une prière avec vous ce matin. Et vous pouvez répéter après moi. J'invite tout le monde dans la salle à prier cette prière avec eux ce matin. Et le Seigneur Jésus, il va entrer dans votre cœur, il va vous changer, transformer. Donc, priez cette prière avec moi. Père Céleste,
au nom de Jésus, je viens à toi et je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est mon Sauveur et mon Seigneur, mon Maître. À partir d'aujourd'hui, je veux te suivre. Je crois de tout mon cœur que Jésus est ressuscité. Au nom de Jésus. Amen. Amen.
Enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissance.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.